Bonjour, notre émission de ce jour est consacrée au témoignage de Fernand Poncet. Fernand Poncet fait partie de ces 1 343 000 jeunes Français appelés entre 1955 et 1962 et qui ont été envoyés combattre en Algérie, dont plus de 13 000 ne sont pas revenus vivants. Il va nous conter comment lui, jeune travailleur non politisé, a été appelé à 20 ans et envoyé tout de suite en Algérie, où il a vécu la guerre en subissant son sort. C'est beaucoup d'années après qu'il se posa de plus en plus de questions et chercha à se positionner clairement par rapport à son vécu de jeune soldat en adhérant à l'association pacifiste 4ACG, association des anciens appelés en Algérie contre la guerre, fondée en 2004 par Rémi Serre et trois autres anciens appelés combattants de cette guerre. Bonne écoute.
Nous étions fiers d'avoir 20 ans pour offrir aux glèbes augustes la foi de nos cœurs éclatants et l'ardeur de nos bras robustes. Mais voilà qu'on nous fait quitter notre clair sillon de bonté pour nous mettre en ces enclos ternes que l'on appelle les casernes. En nos mains de semeurs de blé dont on voyait hier voler les gestes d'amour sur la plaine, en nos mains de semeurs de blé. On a mis des outils de haine aux fusils qu'on nous mit en main, qui tuerez-vous demain? Notre front qui ne s'est baissé.
Voilà, moi je m'appelle Fernand Poncet, donc, et je suis né le 21 avril 1936, et je suis né dans ce village, au village de Viricelle. Et en septembre 1956, à l'âge de 20 ans, donc, eh bien, j'ai été appelé sous les drapeaux et je suis parti directement faire mes classes en Algérie.
Si on revient sur ces 20 années qui vous séparent de 56, donc vous êtes né ici à Viricelle.
Alors je suis né ici à Viricelle, j'ai été à l'école du village de Viricelle. Ensuite j'ai été au cours complémentaire, c'était le CEG. Cours d'éducation générale, CEG de Châtel-sur-Lyon. Puis vers l'âge de 17-18 ans, je suis parti à Saint-Étienne pour rentrer au PTT.
Et voilà. Vos parents étaient agriculteurs ou...
Alors mon père était chapelier, puisque Châtel-sur-Lyon c'est la capitale du chapeau, chapeau de feutre. Et mon père était chapelier et ma mère était... on peut dire agricultrice, mais 3 vaches, c'est presque quelques chèvres et puis quelques moutons, quoi.
Ouais. Voilà. Et chapelier, une petite entreprise ou
un artisanat? Ah non, il travaillait à l'usine Fléchet.
Ah, il travaillait.
Ah oui, voilà.
L'usine Fléchet, c'était une usine?
C'était l'usine principale de Chazel. Le chapeau Fléchet, c'était renommé. Chapeau Fléchet, chapeau parfait. Il y avait essentiellement 2 grosses entreprises de chapellerie à Chazel, Fléchet et Morton. Les autres, il y en avait beaucoup d'autres. Je crois qu'il y en avait entre 20 et 30 usines de chapellerie. Et à l'époque, il y avait 2500 ouvriers chapeliers. Donc c'était une grosse affaire, hein, la chapellerie à Chazel.
Oui. Et dans l'usine de votre père, il y avait combien de personnes?
Je ne saurais pas le dire.
Après, c'était important, quoi.
Ah, c'était très important. D'ailleurs, la chance aujourd'hui, c'est que dans l'usine Fléchet, il abrite aujourd'hui le musée du chapeau.
Toute cette activité, elle a disparu.
Eh oui.
Il n'y a plus rien aujourd'hui.
Il n'y a plus rien, hormis le musée du chapeau, qui fait encore quelques chapeaux, mais il ne fabrique pas le feutre. Il part du cône, donc du feutre, et il met en forme. Donc il y a encore un peu d'activité de ce type-là, mais le musée du chapeau est surtout musée.
Et qu'est-ce que sont devenus les 2500 personnes qui travaillaient dans la chapellerie?
Il y a eu quelques industries qui se sont installées, autres, notamment une industrie de transformation de la viande, saucisson.
Et aujourd'hui, il y a une Chazelle, il y a du monde, il y a une.
Il y a encore 5000 habitants. Il y a encore, c'est plus de canton. Pour quelques temps encore, je sais pas combien de temps, mais bon, c'est plus de canton. Il y a une activité commerciale importante. Parce que les gens de la campagne, d'ici et d'ailleurs, vont à Chazelle pour faire leurs courses.
Et vous, vos parents, votre père était ouvrier, c'était pas.
Oui.
Il a quand même réussi à vous pousser dans les études.
Oui, pas très loin, puisque je suis allé jusqu'au BEPC, et puis après, je suis parti au boulot. J'avais pas très envie d'étudier, je le regrette aujourd'hui, mais j'avais plutôt envie d'aller bosser. Et j'ai eu la chance de rentrer au PTT et de m'installer à Saint-Étienne, alors à ce moment-là. Et bon, voilà, j'étais au foyer des jeunes rue des Herclus à Saint-Étienne, foyer des jeunes travailleurs.
Et vous faisiez quoi, facteur?
Alors, j'ai débuté facteur, oui, effectivement. Mais j'ai tout fait. Quand on est auxiliaire, on vous appelle à toute tâche. Et alors, justement, j'étais à cette époque-là auxiliaire. C'est-à-dire que j'étais pas fonctionnaire. Et je m'étais inscrit au concours d'agent d'exploitation et j'ai été appelé à ce concours alors que j'étais sous les drapeaux. Et j'ai pu aller passer le concours d'agent d'exploitation à la Grand Poste d'Alger.
Ah oui.
Pour moi, la Grand Poste d'Alger, c'est quelque chose. C'est le début de ma carrière, c'est le début de ma vie active. En tant que titulaire, puisque j'ai réussi ce concours, et je suis allé passer ce concours de Maison Carrée à Alger, c'est la banlieue d'Alger, hein, Maison Carrée. Je crois que ça s'appelle El Arache maintenant, hein. Et je suis allé de El Arache, enfin de Maison Carrée à Alger, sous escorte. Évidemment, c'était la guerre. Qu'on n'appelait pas la guerre, mais c'était la guerre.
C'était à quelle date votre concours, vous rappelez?
Alors, j'étais à l'armée. Je suis parti en 56, donc c'était. Je pense que c'était au printemps 57.
Pleine bataille d'Alger.
Ah oui! Ah oui, oui, oui! Oui, oui, c'est pour ça qu'on était sous escorte et qu'on ne risquait pas de bouger d'un pouce.
Et donc, avant 56, donc vous êtes jeune travailleur PTT.
Ah oui!
Vous allez le rester jusqu'à 56, jusqu'à.
Eh oui, jusqu'à mon départ à l'armée.
Et quelle vision vous aviez à ce moment-là de ce qui se passait en Algérie, on va dire?
Aucune.
Aucune.
Aucune. On était insouciant. Vraiment. Ah oui, on était insouciant.
Même pas l'angoisse de devoir y aller.
J'allais, pardon.
Même pas l'angoisse de devoir y aller à votre tour.
Alors, même pas. Non, on menait notre vie de jeune. Moi, j'étais aux auberges de jeunesse. En guise d'auberge à Saint-Étienne, on avait une tente au jardin public. On avait diverses activités. On faisait du ski, évidemment, quand l'hiver. Je me souviens, par exemple, avec un copain à l'auberge de jeunesse, on a construit un kayak et on a descendu la Loire en kayak depuis Retournac jusqu'à Roanne. C'était bon. Voilà. On avait des activités de ce type. Et le foyer des jeunes était très bien d'ailleurs. Il y avait un cinéma, il y avait beaucoup de. Le foyer des jeunes rue des Herclus. Il existe toujours d'ailleurs, je crois.
Et vous étiez sensible à la syndicalisation par exemple?
À cette époque-là, pas vraiment.
Pas vraiment.
Non. J'ai commencé, enfin, je me suis syndiqué lorsque je suis rentré de l'armée et que j'ai été nommé, je ne sais pourquoi, à Annecy, en Haute-Savoie. Annecy. Alors que tout le monde partait à Paris. À cette époque-là, on débutait notre carrière de fonctionnaire des PTT à Paris. Et j'avais rien demandé.
Vous savez toujours pas pourquoi.
Ah non, je sais toujours pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. J'ai été nommé au télégraphe. Pas comme télégraphiste, mais comme transmetteur. Mais c'est vrai, il y avait peut-être un lien avec l'armée, puisque j'étais.
Vous aviez fait la même chose.
Et j'étais aux transmissions. Et donc,
Et c'est vrai que 55-56, la guerre, c'était le début, et en France, on n'était pas sensibilisés comme en 60, quoi. Hein, c'était pas la même...
Non, puis vraiment... on a parlé un peu entre, quelques jeunes plus politisés que nous commençaient à en parler, mais bon, ça mordait pas, quoi. Hein.
Et quand vous recevez votre feuille pour partir à l'armée, donc vous y attendiez, c'était une question d'âge, pas de surprise. Et là, on vous dit quoi ? On vous dit partir en Algérie tout de suite ?
Ah oui. Ah oui, oui. J'ai fait 3 jours, enfin, ça a duré 3 jours. On a fait les 3 jours. On a été incorporé à Lyon-la-Duchère. Après quoi, on a pris le train jusqu'à Marseille. Ça a duré au moins une journée.
Vous l'aviez pris à quelle heure, votre train, vous rappelez ?
Aucune idée.
La nuit ou le jour ?
Aucune idée. Du jour. Et on est arrivé à Marseille, pareil, dans une caserne, et embarqué dans des camions, et le ville d'Alger, et direction Alger et Maison Carrée. Voilà.
Donc, tout ça sans inquiétude.
Mais non, on partait. On y allait. Alors, c'était l'aventure, et c'était, pour moi, c'était, nouveau. Tout était nouveau. L'Algérie était absolument nouveau. La traversée en bateau, c'était absolument nouveau. J'avais jamais traversé en bateau. C'est après qu'on s'est demandé ce qu'on allait faire en Algérie. Pendant le séjour en Algérie, pendant la période d'armée en Algérie, on s'est posé des questions. On commençait à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait ici? Mais à quoi on sert? Qui on sert? On se posait la question, qui on sert? Alors, on avait beau nous dire qu'on défendait la France, mais que c'était la pacification, que c'était le maintien de l'ordre, pacification, le mot guerre n'était jamais prononcé. Jamais, jamais, jamais. Donc, on était dans ce monde-là, comme ça, mais quand même, on se posait des questions. Et on n'avait pas conscience, à l'époque, de ce qu'était le colonialisme. On ne connaissait pas le colonialisme, nous, les appelés. Hein? Les gens qui habitaient l'Algérie connaissaient le colonialisme, mais pour cause. Mais nous. Et on ne savait pas qu'on était là pour, à la limite, défendre cette idéologie du colonialisme.
Et vos premières semaines, donc c'est l'ITLAS, quand vous arrivez.
Oui,
comment
oui,
ça
oui.
se passe, là ?
Dur. Enfin, dur. Tout est relatif. Dur. J'étais dans un régiment de transmission. Mais on faisait l'ITLAS, comme tout un chacun. Moi, je me souviens, ce qui m'a été le plus dur, j'étais pas un grand sportif, c'était le parcours du combattant. Ça, c'est vrai que, c'est pas très marrant, quoi. C'est pas marrant du tout, même. Je me souviens aussi des piqûres qui vous foutaient malade pendant 2 jours, 2 ou 3 jours. C'était pas non plus... Mais...
Déjà des marches, non, aussi ?
Pas trop, non. Non, pas trop, parce que on était transmission. On n'était pas appelé à crapahuter. On en faisait, mais pas au point de s'en plaindre.
Et à la fin de ces classes, qu'est-ce qu'on fait de vous ?
Alors, à la fin des classes, j'ai été muté dans un bled qui s'appelle Douéra. Douéra, c'est dans la Mitidja, ça. C'est un peu plus loin, c'est en direction de Blida. Où là, j'ai fait ma spécialité, chiffreur-régleur. Le chiffreur, c'est celui qui code les messages, quoi. Voilà. Donc voilà, j'ai fait ma spécialité avec la 8 caserne. Là, c'était la 8 caserne.
Et vous étiez dans quelle structure ? Un camp ? Une grosse caserne ?
Ah non, une grosse caserne. Mmh. Une caserne. Hein.
Donc vous avez...
Caserne en dur.
Vous n'aviez pas de problème de garde de...
Ah si ?
Si, quand même.
Avec une garde de...
C'est pas vous qui la faisiez, si ?
Pardon ?
C'est pas vous qui la faisiez, la garde, si ?
Et si ?
Ah si, quand même.
Ah si ? Ah si ? Une nuit sur deux ? Ah si ? Non, c'était une nuit sur trois, je crois. Hein. Mmh. Oui, en gros. Hein. Ah oui, bien sûr, oui. Et alors, cette caserne-là, C'est là où on a commencé à comprendre un certain nombre de choses. On entendait crier des gens, mais crier d'une manière inhumaine. Et c'est là où on ne savait pas, nous, que c'était la torture. On l'a su bien après.
Qu'est-ce que vous pensiez que c'était ?
Des questions qu'on se posait. Alors, le bruit courait dans le camp. Il y avait des gars qui étaient plus aguerris que nous et qui commençaient à dire « Mais ça, c'est la torture. Ça, c'est la torture. » Nous n'y participions pas, bien sûr, mais on entendait. On entendait, voilà.
Et vous ne saviez pas qu'il y avait une équipe chargée de ça dans votre caserne ?
Non,
Ils étaient discrets.
Tout là, c'était l'omerta. Ah oui, ah oui, ah oui. Mais enfin, les bruits couraient, quoi. Ça, c'est... Alors, petit à petit, on savait pas. Ça commençait à être difficile à supporter. Et à partir de là, on s'est quand même beaucoup posé de questions. On discutait entre nous, hein, entre Truffions. Hein. On a du temps. Parce que, bon, en dehors de la garde, c'est à peu près tout ce qu'on faisait. Si on avait une permission le samedi ou le dimanche, mais on allait, je me souviens, manger le beefsteak frites, salade, au restaurant du coin, dans le village. On y allait...
Sans armes.
Non, sans armes. Mmh. Ouais, en tenue de sortie. Et voilà. Non, sans armes. Là, c'était encore bon.
Et vous restez combien de temps à cet endroit-là ? Pendant tout votre service ?
Non. Non, quand j'ai eu fini, ça devait durer 3-4 mois aussi, là. Mmh. 3 mois de classe, 3-4 mois de spécialité. Avec, je vous dis, déjà des opérations de ratissage. Les opérations de ratissage, on se met en ligne
et on avance.
Hein, et on avance. Et on fouille les mechtas, ce que j'appréciais pas beaucoup. Et en général, les paras avaient passé avant nous, enfin, etc. Bon. Mais ça, c'est, j'appréciais pas beaucoup, moi, les opérations de ratissage, parce que on se demandait d'ailleurs à quoi on servait, parce qu'on nous faisait avancer comme ça, mais je vous dis, c'est pas nous. Les paras avaient déjà agi, ils étaient déjà passés, ils avaient déjà. Mais bon. Les gens avaient fui devant. Il restait quelques enfants, quelques femmes, quelques vieillards, et puis c'est tout ce qu'on trouvait. Il n'y avait rien d'autre. Enfin bon.
Et là, vous n'aviez pas votre radio, vous aviez une arme pendant ces opérations.
Ah oui. Ah ben là, oui. Mmh. Oui. Masse 36. Oui, oui. Oui, oui. Non. Bon, là, ça a été. Sans incident majeur, on peut dire. Donc on avait ces opérations de ratissage, la garde à la caserne, et puis dans la journée, on bossait sur la spécialité, et voilà. Je crois qu'on a défilé une fois pour le 14 juillet dans le village, un truc comme ça. Bon.
Et après ces 4 mois, là ?
Alors après ces 4 mois, j'ai été nommé, alors j'ai été versé dans un groupe mobile de transmission, un GMT, groupe mobile de transmission. Alors c'était une petite unité, 30-40 environ, petite unité, et qui était chargée de garder une ferme. Là, on gardait la ferme d'un colon à Aïn Taïa, près de la mer. On était revenu de l'autre côté d'Alger. Aïn Taïa, c'est sur la route de Alger. Constantine, mais c'est tout près d'Alger, hein, c'est à quelques kilomètres d'Alger. Donc on gardait une ferme qui était entre le village d'Aïn Taïa et la mer. Alors là, on était partagé en deux groupes. Un groupe était de service à la ferme, était de service de garde à la ferme. L'autre groupe partait en opération. Groupe mobile De transmission. On assurait les transmissions dans les opérations de maintien de l'ordre, disons, qu'ils appelaient les maintiens de l'ordre.
Donc ça veut dire que vous étiez la radio de...
Voilà. Ah oui, je me souviens, on a eu de très grosses opérations, quelquefois on partait plusieurs jours, hein. On partait plusieurs jours dans les Aurès, dans le bled. Il y a eu l'opération Benounis et l'opération Amirouche. Et je ne sais plus si c'est celle-ci ou une autre, il y en a eu plusieurs, beaucoup. Je me souviens qu'on n'était pas en service en permanence, radio. Et donc, je me souviens que lors d'une opération, on était à peine arrivé sur place, qu'ils ont convoqué ceux qui étaient disponibles et qui n'étaient pas de permanence pour aller monter les tentes tout de suite, parce qu'il y avait eu un accrochage sérieux et il y avait des morts et des blessés. Il fallait mettre sous abri tous ces gens-là. C'était les paras qui étaient aux premières lignes. Là, hein.
La Légion aussi, non?
La Légion aussi, mais oui, tout. Ah ben les combattants, ceux qui étaient... Nous, on était au PC, on était quand même tranquilles.
Et tous ces morts et blessés qu'on a mis dans les tentes, vous les avez vus?
Non. Moi, j'ai vu des blessés qui arrivaient et qui ont été pris en charge par les médecins qui se trouvaient là. Enfin, un, je crois qu'il y avait un médecin de l'armée, mais
est-ce
bon.
Est-ce qu'ils ne voulaient pas que vous les voyiez ou parce que vous étiez ailleurs
On n'avait pas... On n'avait pas de consigne particulière et puis on n'était pas curieux non plus. On était là. Voilà. Vraiment, ça n'a pas été... Ça s'est déroulé comme ça. On était quand même bien encadrés. Hein,
si mais en tant que radio, donc vous étiez avec le lieutenant.
Voilà,
le
capitaine ou le colonel qui commandait l'opération. Oui.
Et en même temps, saviez tout, puisque
les infos
passaient par vous.
Oui, les infos, oui. Mais on en. Comment vous dire?
Vous n'en faisiez rien.
Mais non, on n'en faisait rien. Et non.
Mais s'il y avait des tués, s'il y avait un accrochage, s'il y avait une demande de soutien,
vous étiez au courant, on faisait notre boulot, quoi. Mm. Et puis voilà. Hein, on faisait ce qu'il y avait, ce qu'on nous demandait de faire. Voilà. Mm. Et oui, c'était comme ça. On n'avait pas envie d'être. Bon, même si ça ne nous plaisait pas beaucoup, mais c'était comme ça, il fallait le faire. On était appelés pour ça. On peut dire ça comme ça.
Et comme ça, ça va durer?
Ça a duré pratiquement jusqu'à la quille. Hein. J'ai pas bougé de cette...
Vous êtes resté dans ce secteur.
Ouais. Mais je suis parti en Kabylie plusieurs fois. C'est à proximité de la Kabylie, hein, à Intaya. Juste avant la Kabylie. Il y avait deux groupes, et puis on se relevait, quoi, en gros. Et je me souviens, là, on prenait la garde de la ferme, là, c'était une nuit sur deux, hein. Une nuit sur deux. Pas beaucoup d'accrochages, quelquefois, pas de gros accrochages, mais la nuit, on entendait les chacals, c'était quand même assez lugubre.
Vous avez jamais eu d'attaque,
non,
la nuit?
Non. Non, mais on était vraiment, c'était pas au cœur du massif, ça, c'était la plaine d'Alger, là, non.
Et avec le colon, ça se passait comment?
Jamais vu. Je l'ai jamais vu. Moi, personnellement, je l'ai jamais vu.
Et jamais venu vous remercier de...
Ceux qu'on voyait beaucoup, ce sont les enfants, les jeunes, les enfants de ces employés musulmans arabes. Eux, on les voyait beaucoup. Ils venaient, parce qu'il y avait des bonbons, il y avait des bons. Et puis les Arabes eux-mêmes, les employés, on discutait un peu avec eux. Et il y avait une meshta à proximité, où là, il y avait un gars qui avait fait la guerre de 39-45. Il venait de temps en temps nous voir. Et il aurait aimé pouvoir parler de tout ça, mais nous, on n'avait pas... D'abord, on ne nous incitait pas à le faire, plutôt l'inverse. Et donc, mais c'est vrai qu'il... alors, est-ce que c'était un membre des renseignements? J'en sais rien, mais il venait très souvent nous voir au poste, là où on était en poste.
Enseignement pour les Algériens ou pour les Français?
Pour les Algériens, de mon point de vue. Mais je ne l'ai jamais su non plus. Donc, mais bon.
Et vous avez eu des accrochages, des choses pénibles, non?
Pas vraiment. Non. Une fois en partant en opération comme ça, il y a eu parce qu'on est on partait en convoi bien sûr, il y a eu un accrochage, on a été arrêté, mais ça s'est passé devant. On a eu ordre de ne pas bouger.
Vous avez jamais eu à sauter des camions sous les balles, quoi.
Pas du tout. Voilà, on a eu ce genre de choses, mais ça s'est réglé devant entre d'autres tirailleurs, si j'ose dire. Et donc, nous, on avait ordre de ne pas bouger, donc on ne bougeait pas, et puis voilà. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, le capitaine commandant sautait de la jeep, donnait les ordres, distribuait les consignes, etc.
Et psychologiquement, vous étiez heureux, malheureux là-bas? Comment vous présenteriez ça? Qu'est-ce que vous ressentiez avec...
Moi, je m'étais fait des copains. On avait sympathisé avec deux, trois copains. Alors, on vivait dans cette ferme, hein, on vivait dans la cave. Nos lits étaient en face des cuves à vin, mais qui étaient désaffectées, mais on était dans la cave. On était installés là, donc il y avait quand même une espèce de solidarité entre nous, quoi.
Vous comptiez les jours, quand même?
Ça oui, mais voilà, ça se passait comme ça, entre la garde, les opérations, la garde, les opérations, la garde, les opérations, bon. Et quand on restait 3-4 jours sans partir en opération, on commençait à trouver le temps long parce que, bon, on s'ennuyait à la limite.
Et vous avez fait combien, vous, de...
27 mois.
27 mois.
Oui. Et une seule permission. Je suis donc rentré un mois ici, un an après le départ, c'était en septembre 57.
Comment ça s'est passé, cette permission? Vous avez pu parler avec...
Eh ben voilà, c'est ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est qu'on parlait peu. On en parlait peu. Et les gens du village nous posaient pas de questions non plus, et nous, on n'en parlait pas. Voilà. Ça, c'est ça. Ça a été un phénomène, ça. Et nous, vraiment, on n'avait pas vraiment envie d'en parler. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Hein. Je me demande. Hein. Est-ce qu'inconsciemment, on avait été formaté pour ça? J'en sais rien. Je me pose la question. Mais on n'avait pas du tout envie d'en parler.
Est-ce que vous n'étiez pas fier, peut-être, de... d'être obligé d'aller là-bas?
Comme l'est un militaire qui porte l'habit militaire,
Mais il y avait aussi une fierté.
Sans plus.
Il peut y avoir une fierté aussi d'être militaire.
Sans plus, c'était... Non.
Parce que dans le village, quand vous arrivez avec votre habit militaire...
Oui. Bon, voilà, bon, mais sans plus, ça... C'est tout, c'est pas... Ouais. Non, je crois pas que c'était une fierté, non. Bon, on faisait notre devoir, voilà. C'était un peu ça.
Et cette permission, vous l'avez bien vécue quand même?
Bah, je l'ai vécue, oui, et surtout avec la famille, quoi. Avec la famille.
Pour repartir, pas d'angoisse non plus,
non. Particulièrement. Non. C'était pas de gaieté de cœur, mais... il fallait y aller.
Et aujourd'hui, vous diriez que vous avez souffert de cette période qu'on vous a imposé de faire en Algérie, ou pas vraiment?
Moi, avec le recul du temps, Non, ça a été un moment... ça a été un moment de ma vie, mais... C'est assez bizarre quand même, parce que ça a été un moment quelque part douloureux parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on faisait, à quoi on servait, pourquoi on était là, qu'est-ce que c'était que ce qu'on nous faisait faire. On ne comprenait pas tout, et vraiment pas tout. Pour quelle raison on était là? Qu'est-ce que c'était que cette pacification? À la limite, quelquefois, on pouvait y croire à la pacification. Mais, maintien de l'ordre, pacification, bon, ben voilà. Et puis, c'était pas la joie, quoi. Parce qu'on était, aussi alarmés. On était contraints. Et c'était pas la joie. Voilà. Mais, voilà. C'était comme ça.
Ouais. Et après, une fois rentré, vous avez vu les choses autrement?
Alors, une fois rentré.
Vous êtes rentré, la guerre était loin d'être finie.
Ah non, bah oui. 59, oui. Début 59, oui. Oui, mais alors après, ça a été, ouf. Ça a été ouf. Démobilisation, quand j'ai rendu le package à la gendarmerie, je crois. Eh ben, ça a été terminé.
Il n'y a plus pensé.
Et ni surtout en parler. Vraiment plus rien. Ça a été le vide complet.
Et vous n'êtes pas retrouvé dans les rues à manifester contre la guerre?
Pas du tout. Pas du tout. À ce moment-là, pas du tout. Et donc, je suis passé par mon village, et puis je suis parti à Annecy, et j'ai pris mon boulot de postier, puisque j'étais titularisé à ce moment-là. Alors, tout content d'être titulaire, fonctionnaire, etc. Bon, et puis voilà, et là-bas, j'ai refait une vie civile, sans... Alors, c'est ça, il a fallu des années et des années pour qu'enfin... je commence à reparler ou à m'intéresser à l'Algérie et à m'intéresser à ce que j'ai vécu, à ce que j'ai connu en Algérie. Il m'a fallu des années et c'est bon. Alors après je me suis syndiqué, j'ai adhéré à un parti politique qui est toujours le même depuis, et bon, alors tout ça quand même, ça a ouvert les l'esprit, ça a ouvert des portes.
Fernand Poncet nous parle d'ouverture d'esprit sur ce qu'il en avait été de son vécu et, avant de lui redonner la parole, nous voulons revenir un instant sur l'association des anciens appelés en Algérie contre la guerre, 4ACG, fondé le 8 janvier 2004 par Rémi Serre et trois autres anciens appelés combattants de cette guerre. En vous donnant à entendre un court extrait du témoignage de Rémi Serre lors de l'entretien qu'il nous avait accordé et qui a été diffusé dans notre émission du 13 mars 2012.
Et votre idée quand vous avez créé l'association, c'était quoi? C'était de faire de l'antimilitarisme, du pacifisme, vous aviez d'autres projets.
C'était
l'argent de la retraite qui posait problème.
Nous, on a dit, et moi j'ai dit que cet argent, il était, j'aime pas dire qu'il était sale, parce que s'il est sale, tu ne peux pas le donner aux autres. Mais cet argent est taché de sang, il est taché de tous ces cris d'horreur qu'on a entendus, de cris de torture, il est taché de cette misère, de cette mort qu'on a vue. Et cet argent, je ne peux pas prendre cet argent pour faire des cadeaux de Noël à mes petits-enfants. Je préfère ne pas y en faire, si je dois le faire avec cet argent. Voilà, au début c'était ça. Après, on y a greffé, on a dit, on va peut-être essayer de rencontrer les moudjahidines, de se réconcilier avec ce peuple, d'essayer de faire quelque chose, mais c'est venu après, après on a dit qu'est-ce qu'on fait. D'abord, qu'est-ce qu'on fait de cet argent, puisqu'on ne le prend pas?
Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'adhérer au 4ACG?
Alors ça, c'est bien après, longtemps après bien sûr, puisque j'ai adhéré il y a 4 ans, 3-4 ans. Mais entre-temps, pour moi, il n'était pas concevable de rester individuel. Donc, j'avais adhéré à la FNACA. FNACA, je suis allé à quelques manifestations, mais c'est plus des rencontres festives qu'autre chose. Je m'y sentais mal. Très mal, mais vraiment très mal. Je me suis posé des questions en me disant, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta place. C'est pas ta place. Ce racisme, moi ce qui me gênait le plus, c'est ce racisme au premier degré qui était véhiculé par les membres de la FNACA, par un certain nombre d'entre eux. Je dirais pas la totalité, mais un certain nombre d'entre eux. Ça, je pouvais pas supporter. Alors, je me suis un peu désintéressé, tout en continuant à payer ma cotisation, mais j'ai pu participer à aucune sauf aux manifestations officielles, 11 novembre, 14 juillet, etc., etc. Bon. Mais, à aucune autre manifestation, la FNACA. Bon. Et puis voilà, j'en étais là, lorsque un collègue de Grézieux-le-Marché qui habite à côté, là, Pierre Martin, qui est un gars que je connaissais, je le connaissais. À l'époque, j'étais président de l'office de tourisme de Chazelles-sur-Lyon, donc on rencontrait beaucoup de gens. Et un jour, il vient me voir, hein, et il vient me voir et il me dit, il vient me parler de la 4ACG. Et là, je lui dis, mais, eh ben voilà, c'est ça que j'attends depuis longtemps. C'est ça que j'attends depuis longtemps. Et là-dessus, j'ai adhéré à la 4ACG. Voilà. Et ça a correspondu tout à fait à ce que j'attendais pour me libérer, quelque part, pour faire le deuil de cette Algérie. Pas de l'Algérie, de ce que j'ai vécu là-bas. Voilà. Pour faire le deuil de cette période-là, de ces 28 mois d'Algérie, 27 mois d'Algérie, quoi.
Parce que les 4ACG, le principe, c'est de dire on ne veut pas toucher d'argent pour une guerre qu'on n'aurait pas dû nous faire, quoi.
Absolument. Voilà. Voilà. Et donc, ça me correspondait tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai adhéré et que je suis adhérent et non pas ami. Voilà.
Mais d'autres disent on a fait cette guerre contrainte, on a souffert. C'est pas anormal qu'on soit indemnisé, quoi.
Oui, ah ben, il y a aussi ça, oui, mais il y a tout ça. Et puis surtout, c'est l'esprit de cette association par rapport à l'Algérie en tant que telle qu'elle est, avec ce qu'elle est aujourd'hui, parce que c'est pas non plus une réussite, mais ils ont eu les années noires, ils ont eu tout un tas de choses qui fait qu'ils n'ont pas pu évoluer comme ils auraient pu le faire ou dû le faire. La vision de la 4ACG par rapport à l'Algérie, par rapport à tout ça, par rapport à la guerre, contre la guerre. La guerre, ça n'apporte jamais rien de bien, de bon. Donc voilà, contre la guerre, on reconnaît l'Algérie, on reconnaît nos frères algériens, on reconnaît ce peuple. Quand on était là-bas, ils se battaient pour leur libération. Et nous, on était là pour on se demande, moi je me demande encore pourquoi, quoi. Hein? On était là pour défendre le colonialisme, c'est tout.
Oui.
C'est tout. Donc la 4ACG, moi, me convient tout à fait. Et bon, je suis très bien. Et j'apprécie beaucoup tout ce qui se fait là-dedans, toutes les réflexions qui peuvent.
Vous participez à des voyages, vous êtes retourné en Algérie.
J'ai participé à deux voyages et ça a été aussi pour moi quelque chose d'extraordinaire, quoi. Vraiment. Le premier voyage, c'était Constantine-Alger. On a donc traversé toute cette Kabylie. On a passé à Aïn Taïa où j'étais, mais on reconnaît plus rien. Et puis les autoroutes, les machins, c'était pas comme ça à l'époque. Bon, il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait pas bon. Tout ça. Mais ça s'est développé, tant mieux pour eux. C'est en plein de travaux, hein, en pleine évolution, avec leurs difficultés. Hein, j'aime beaucoup ce peuple. Moi, j'aime beaucoup ce peuple algérien, ce peuple arabe, musulman. J'aime ce peuple.
Vous n'avez pas eu beaucoup de contacts avec population là-bas?
Non, pendant pas beaucoup, service. Pas du tout même. Alors,
où c'est que vous avez appris à aimer pas ce peuple?
Eh ben, le fait d'y retourner, je l'ai redécouvert. Je l'avais un peu découvert quand même. À l'époque, quand on était à Maison Carrée, on allait quelquefois à Alger, mais en escorte. Enfin, on allait pour service d'ordre. Donc, on allait avec le fusil sur l'épaule, etc. Bon, on rencontrait ces gens. Enfin, rencontrait. On voyait ces gens. On les rencontrait pas, on les voyait. Et on les voyait vivre. Dans une grande ville. Maison Carrée, là où je les ai le plus côtoyés, rencontrés, mais sans contact véritable, c'est à Douéra. Parce que là, on sortait. On sortait une fois par semaine, quoi. On avait une permission. Et donc, on voyait ces gens-là.
Et dans les campagnes, vous avez pu prendre conscience de la misère dans laquelle vivait la population?
Pas trop, non. Vous voulez dire dans les opérations?
Non.
Pour moi, c'était leur manière de vivre, c'était leur vie, c'était... Bon, ils étaient comme ça, bon... Est-ce qu'ils étaient exploités?
Ils étaient pauvres, en tout cas.
Pauvres, en tout cas. Voilà. Les Mechtas, moi, je me rappelle de cette Mechta qui était à côté de la ferme, là, pas loin, 50 mètres. Mais... on n'y allait pas, mais on la voyait, quoi. On voyait les gens. Et encore une fois, on avait ces enfants qui venaient souvent nous voir, qui étaient presque en permanence avec nous dans la cour de la ferme. Et donc, c'était comme ça. On les voyait aussi. On voyait beaucoup les enfants, même des adultes, quand on allait vider les poubelles de la caserne. Alors ça, oui. Là, on rencontrait la misère. Ils venaient fouiller les poubelles. Et puis, on ne les rencontrait pas beaucoup, les Arabes, les musulmans de l'époque, parce que il y avait les Français, et puis il y avait les autres. Et nous, on était entre les deux, là, et on était plutôt côté français, quoi. On était plutôt chaperonnés par des Français, par des pieds noirs, qui quelquefois nous invitaient à leur table, selon... Il y avait des trucs comme ça qui se passaient de temps en temps, mais c'était épisodique, quoi.
Avec les pieds noirs, pas de mauvaise relation non plus, quoi.
Pas particulièrement, non.
Vous n'avez pas senti méprisé?
Ah non. J'ai plutôt l'impression qu'ils avaient besoin de nous, quoi. On avait ce sentiment-là, plutôt. Pas besoin de nous, m'entends. On était là pour eux, hein, si vous voulez. Non. Pas vraiment.
Et vous dites longtemps pour en parler, pour y repenser. Ah oui. Ça fait combien d'années, ce longtemps? C'est à partir de quand vous avez commencé à avoir envie d'y revenir?
La carte de combattant, on l'a eue à 60 ans, je ne me rappelle plus à quelle année. C'est au moment où je me suis intéressé à la carte de combattant, que parallèlement à ça, je me suis posé des questions et je me suis réintéressé à ce que j'avais vécu et à ce que ça avait été. Et à ce moment-là, j'ai lu des bouquins, je m'intéressais à ce qui s'écrivait, aux articles des uns et des autres, et c'est comme ça que je suis revenu...
Pour votre propre histoire.
Sur le plateau, oui, oui. Voilà, donc, me suis toujours posé la question, et je me la pose encore, qu'est-ce qu'on est allé faire là-bas, quoi. J'ai quelques réponses avec la 4ACG, mais c'est pas satisfaisant, tout ça, quoi. C'est pas satisfaisant.
Oui, il y a plusieurs lectures, hein, suivant le point de vue duquel on se place. Bien sûr, il y a des gens qui vous diront l'Algérie c'était la France, d'autres qui diront l'Algérie est aux Algériens.
Oui, moi, alors ça, je l'ai toujours pensé rapidement, y compris quand j'étais là-bas. Je me disais, mais s'ils se battent, c'est... De toute manière, j'ai toujours été sensible au fait que les gens se libèrent et que s'ils un peuple qui se libère, qui veut se libérer, rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête. Et on a, et je, personnellement, je pense qu'on a, on a eu tout faux pendant trop longtemps en Algérie. Le gouvernement français a eu tout faux. Il avait peut-être d'autres raisons. Il y avait le pétrole, peut-être, qui se...
Oui. Hein, mais les intérêts économiques.
Les intérêts économiques. Les intérêts des pieds noirs qui nous ont montré après que c'était pas négligeable et qu'il fallait traiter avec eux. Et c'était pas commode. Donc, tout ça, qui eux, étaient pour l'Algérie française. Et bon. Et ça a été un moment dur, un moment difficile de l'histoire, hein.
Ben oui, enfin, on en a connu beaucoup, hein, la guerre 39-45, l'Indochine derrière, l'Algérie.
On sortait de l'Indochine, c'est ça que j'arrive. Alors aujourd'hui, que j'analyse comme ça, on sortait de l'Indochine, on s'était fait foutre dehors, et c'est là où certains militaires voulaient prendre leur revanche. Ça a été un fiasco. Et alors, les accords d'Évian, ça a été une belle chose. Ça a été... Mais le congrès de la Soumam, qui était le congrès du FLN, le congrès de la Soumam, si on en avait tenu compte, si on l'avait étudié et dans le détail, et pris en compte ce qu'il disait, on aurait peut-être réussi différemment. Ça aurait peut-être évolué différemment, parce qu'il n'était pas question de foutre les Français dehors, dans le congrès de la Soumam. Et donc, c'est bien dommage qu'on n'ait pas tenu compte. Ça a été un exploit, le congrès de la Soumam, quand même. 56, le congrès de la Soumam, le FLN, en pleine guerre d'Algérie, ils ont réussi à faire un congrès au milieu de la Kabylie. Il n'était pas question de foutre les Français dehors. Ils voulaient leur indépendance. Et on pouvait...
Coexister.
Oui, coexister.
Et aujourd'hui, avec le recul, vous dites, oui. Si c'était à refaire, finalement, vous referiez pareil.
Je me poserais la question. Je me poserais la question.
Vous seriez pas...
Est-ce que je serais réfractaire?
Oui.
Je me poserais la question. Franchement, aujourd'hui... Alors, c'était dans des conditions bien particulières, quand même. C'était encore la conscription, c'était encore... On devait partir à l'armée et faire son armée. Et est-ce qu'aujourd'hui... Compte tenu qu'on nous a appelés à faire la guerre en Algérie, en fait, à faire la guerre à l'Algérie, est-ce que je prendrais le maquis, si j'ose dire? Est-ce que je serais réfractaire? Parce que ça, il y en a eu.
Il y a eu. Ça coûtait cher, hein. Ça coûtait cher. C'était pas facile.
C'était la tôle. C'était la prison. Je me demande. Ou alors, je partirais, mais j'aurais sans doute une autre attitude. Enfin, dans mes relations avec les autres, avec les camarades. Mm-hmm. Il y avait des gars qui étaient communistes dans mon groupe.
Oui, vous avez vu circuler Luma, non?
Non. Ça, non. Mais ils parlaient, les gars. Mais on n'y croyait pas. Enfin, on avait du mal à adhérer. Voilà. On avait du mal à adhérer à leurs propos. Alors bon, on allait boire une bière ensemble et puis ça passait comme ça, quoi. Mm. Ça se terminait comme ça. Mais ils n'étaient pas nombreux, il y en avait un comme ça, de temps en temps, comme... Hein. C'était pas facile. Alors justement, c'était pas facile et ça ne serait pas non plus si avec un autre esprit, même avec un autre esprit, quoi. Là, on avait un esprit... On était soumis. Moi, j'étais soumis. Je ne me posais pas d'autres questions que d'exécuter ce qu'on me demandait d'exécuter. Voilà. Moi, je voudrais dire que je suis vraiment heureux d'avoir rencontré la 4ACG parce que ça m'a libéré de ce poids que je portais, mais dont je ne parlais pas. Donc, je ne parlais pas. Et donc, ça m'a quelque part libéré. Lors du voyage, j'ai dit qu'on avait fait deux voyages, que j'ai fait deux voyages avec la 4ACG en Algérie, j'en suis ravi. Lors du premier voyage, j'ai dit dans le car, quelque part, que pour moi c'était une résurrection. Et que ce que j'avais vécu, que j'avais enfoui quelque part, refaisait surface, mais surtout que c'était maintenant l'occasion, on pouvait en parler librement. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Et donc, bon, et puis j'ai eu la chance aussi de faire, il y a très peu de temps, là, c'était en mai dernier, j'ai eu la chance de faire le deuxième voyage, Alger-Oran, cette fois-ci. C'est toujours un moment émouvant.
Et en même temps, vous n'aviez pas une grosse culpabilité, vous, parce que vous n'avez tué personne.
Ah non.
Vous n'avez torturé personne.
Non. Mais non, mais on a participé à tout ça. On était complices, si vous voulez. Et donc, c'est nous, c'est notre faute, tout ça. Enfin,
ça pèse quand même.
Ça pèse, oui. Mmh. Oui. Oui. Oui, 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 oui. Oui, oui. Et donc, pour moi, je suis solidaire de tout ça, finalement. Hein? Inconsciemment, involontairement. Mais aujourd'hui, j'en suis libéré parce qu'on peut le dire, hein, que la torture a existé, que on n'avait rien à faire là-bas, l'armée française n'avait rien à faire là-bas, ça pouvait se régler autrement. Ça, il faut connaître, les politiques n'ont pas été à la hauteur. Mais les pressions étaient telles que peut-être c'était pas facile à prendre des décisions. Et le paradoxe, c'est que c'est un militaire, un grand militaire, qui nous a libérés de ça, en gros. Hein? C'est De Gaulle. C'est De Gaulle.
Oui. Enfin,
je ne suis pas gaulliste, mais...
Il a surtout senti les aspirations du peuple. Enfin, quand il est quand même revenu une quarantaine de mille de cercueils, ça...
Alors, c'est ce qui se passait en France. Oui, oui. Mais ça, moi, je...
Oui, c'est ce qui se passait en France, c'est pas ce qui se passait en Algérie qui a arrêté la guerre.
Oui, oui, oui. C'est en 58, oui, qu'il est venu en Algérie.
Oui, mais 58...
Je vous ai compris. Mmh. Et Alors, à ce moment-là, j'étais en Algérie. J'étais où? Oula, j'étais au fin fond, presque au fond du Sahara, là-bas. On était loin, on était dans une opération... je crois que c'était une opération bénouniste, tiens, contre bénouniste. Bon. Mais je me rappelle, et donc on était loin de tout ça, mais je me suis toujours posé la question en me disant, après, au fil des événements et du temps, quand il nous disait « je vous ai compris », il avait déjà pris sa décision. Il avait déjà pris sa décision. Mais, bon, ça ne regarde que moi. Mais moi, pour revenir à la 4ACG, moi, vraiment, ça a été pour moi une révélation et une délivrance. Mmh. Voilà. Mais, délivrance, je ne sais de quoi, mais parce que on n'en parlait plus. C'était fini, on vivait, on avait passé à autre chose, quoi.
Oui.
On avait passé à autre chose.
Voilà, écoutez, je vous remercie.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère.
Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse ici-bas, c'est le prix.
Ainsi se termine notre émission consacrée au témoignage de Fernand Poncet. Fernand Poncet fait partie de ces 1 343 000 jeunes Français appelés entre 1955 et 1962 et qui ont été envoyés combattre en Algérie, dont plus de 13 000 ne sont pas revenus vivants et une multitude d'autres marqués à jamais dans leur psychisme. Au fil de cette émission, vous avez pu entendre les illustrations musicales suivantes, un extrait de la chanson des fusils, un texte de Gaston Coutet, mis en musique par Jeanne Garot et interprété par Rémo Gary. La chanson « Quand les hommes vivront d'amour », paroles et musique de Raymond Lévesque, interprétée en public par Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Robert Charlebois. Nous remercions Fernand Poncet d'avoir bien voulu accepter de témoigner pour Radio Canu, l'émission Vindémiaire, et nous remercions également Bernard Gerland et l'association Parlons-en, avec qui nous collaborons pour la réalisation de ces émissions autour de la guerre d'Algérie. Thank you.
Thank you.